Il est 6h, presque 2 minutes à la météo aujourd'hui. Ce sera du soleil avec un maximum de 31 degrés, une humidex à 36, donc une journée relativement chaude. Ce soir et cette nuit, ce sera partiellement nuageux. Il fera 19 degrés, nous laissant une journée de jeudi assez confortable, mais grise quand même. Des nuages, 60 % de risque d'averse. Il y a aussi un risque d'orage. Il fera 28 degrés demain et l'humidex sera à 36. Pour ce qui est de vendredi, alternant soleil-nuage, 26 degrés, beaucoup plus confortable. Du soleil pour samedi avec 29 et pour dimanche, une alternance de soleil et de nuages avec 30 % de risque d'averse. Il fait en ce moment 20 degrés à Montréal. Eh bien, c'est fait. Le crucifix a été retiré du Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Tout le monde en a parlé hier. On en parle également dans le journal de Montréal aujourd'hui. On a fait ça en douce d'ailleurs parce que en fait, la façon dont les journalistes l'ont su, c'est que l'Assemblée nationale a envoyé aux courriéristes parlementaires, dont moi, un communiqué hier matin indiquant qu'on avait retiré le crucifix et que il y avait des images disponibles. D'ailleurs, toutes les images que vous avez vues ont été prises par les caméras de l'Assemblée nationale. Et là, on a pris grand soin. On voit un homme qui a installé un escabeau, finalement, sur le trône, là où normalement on voit le président de l'Assemblée nationale, François Paradis. Et là, délicatement, avec des gants blancs, il retire le crucifix qui était au-dessus du siège du président de l'Assemblée nationale et le place dans un espèce d'écrin là, de tissu blanc. Et tout ça pour protéger, bien sûr, l'artefact, qui n'en est pas véritablement un. Parce que, tu sais, c'est pas... On prend des gants blancs, puis tout ça, puis on veut... Évidemment, c'est un objet sacré, un crucifix, on comprend, là, mais il reste que... c'est pas un objet qui a une grande valeur patrimoniale, si ce n'est le poids politique qu'il a occupé pendant nombre d'années. Parce que c'est vrai que le crucifix avait été placé au-dessus du trône en 1936 par Maurice Duplessis, qui venait tout juste d'être élu avec l'Union nationale, puis qui voulait que les décisions du gouvernement se rapprochent de celles de l'Église, des valeurs véhiculées par l'Église catholique. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas ce même crucifix qui a été enlevé hier. Parce que le crucifix qu'on a enlevé hier avait été placé en 1982 à la place du précédent crucifix. Alors, c'est un nouveau crucifix. Mais là, ce qu'on va faire, parce que j'entendais hier, il y a même Jean Tremblay, là, l'ancien maire de Saguenay, dont on sait qu'il est très religieux, fait même partie de l'Opus Dei. Il l'avait dit sur nos ondes il y a quelques années. Eh bien, lui, il dit, il dénonce que c'est notre histoire qu'on met à la poubelle. Il n'y a personne qui jette le crucifix. On enlève les deux. En fait, on va prendre les deux crucifix, celui de 1936 et celui de 1982. Et au contraire, on va leur donner une place dans une alcôve située sur le parquet entre les deux chambres. Si vous êtes jamais allé au Parlement, là, vous avez le salon bleu d'un côté que vous voyez souvent aux nouvelles, puis juste en face, de l'autre côté d'une espèce d'espace, là, si on veut, il y a le salon rouge qui est identique au salon bleu. Et là, ça, on appelle ça le parquet. Et entre les deux, il y a comme des espèces d'alcôves qui servent à exposer différents objets. Et là, ben, c'est à cet endroit qu'on va installer une vitrine pour mettre en valeur les deux crucifix patrimoniaux. Et là, ben, avec une courte note, là, on va expliquer l'histoire de ces crucifix. Alors, au contraire, moi, je trouve que quand ils étaient confinés au Salon Bleu, les gens n'ont pas accès au Salon Bleu, mis à part la tribune du public. Mais ils pouvaient pas voir le crucifix ou même savoir quelle était son histoire. Alors là, on va le mettre en valeur. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir enlevé? Les historiens le diront. Peut-être qu'ils riront de nous dans 100 ans. Mais il reste que là, c'est fait. Ça s'est fait en douce, mais ça découlait, bien sûr, d'abord d'une motion qui avait été adoptée en mars dernier par l'ensemble des parlementaires, puis aussi de la loi 21. Là, on sait que François Legault a fait cette concession pour essayer de dorer la pilule auprès des autres partis. Bon, à part ça, François Legault, lui, est à Saskatoon pour le Conseil de la Fédération. Et là, hier, M. Legault a dit qu'il voulait ouvrir un autre front avec Ottawa. On sait que ça va pas très bien, là, la CAQ et le gouvernement de Justin Trudeau, entre autres. Et François Legault, qui se dit nationaliste jusqu'à la moelle, qui a déjà été souverainiste, on le sait, veut ouvrir maintenant un front avec Jason Kenney, le premier ministre de l'Alberta, pour accroître l'autonomie des provinces relativement à la loi fédérale qui modifie le processus d'évaluation environnementale. C'est-à-dire que M. Legault voudrait que il n'y ait plus deux processus d'évaluation environnementale, mais bien un seul, et que ce soit le Québec qui en soit chargé. Alors, c'est ce qu'il fera valoir auprès de ses collègues pour essayer de faire pression sur Ottawa, justement, pour obtenir ce changement et éviter qu'Ottawa vienne encore une fois jouer dans ses pouvoirs, si on veut, les pouvoirs des provinces. Bon, à part ça, évidemment, on vous a parlé beaucoup de la loi 21, de la loi sur la laïcité au cours des derniers mois, des dernières semaines. Inconstitutionnel, difficile à appliquer, la loi sur la laïcité de l'État discrimine une partie de la population, crée deux classes de citoyens. C'est ce qu'on dit dans le journal Le Devoir. C'est une partie des arguments qui ont été amenés hier par le Conseil national des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles, qui étaient au Palais de justice de Montréal pour demander à la Cour de suspendre l'application de la loi adoptée sous Bayon le 16 juin dernier. En fait, ce qu'il dit, c'est que même si on a utilisé la clause dérogatoire pour faire en sorte que la loi ne soit pas contestable devant les tribunaux, ben ce qu'on dit, c'est que quand on touche, par exemple, à la religion, à des valeurs comme celle-là, des droits individuels, ben ça concerne le fédéral, donc le Québec n'aurait pas juridiction là-dedans. C'est l'argument qui a été présenté hier. La cause a été prise en délibéré. On y reviendra un peu plus tard dans cette émission avec des gens qui représentent les organismes qui contestent cette loi. À part ça, oui, il y a beaucoup de gens, évidemment, qui ont les dents croches puis qui aimeraient savoir les dents droites. Tout le monde va avoir de belles dents, n'est-ce pas? Et puis, souvent, les soins en orthodontie coûtent une fortune. Ça peut aller jusqu'à 10 000 $ bien souvent, si c'est pas plus. Or, il y a une nouvelle compagnie qui s'appelle Smile Direct Club qui a commencé à faire des consultations en ligne. On appelle ça un peu... J'appellerais ça l'ubérisation de la dentisterie jusqu'à un certain point. Alors, de la façon dont ça fonctionne, c'est que le client doit prendre l'empreinte de ses dents lui-même à la maison au moyen d'une sorte de pâte, ou encore il peut se rendre dans une clinique appelée Smile Shop. Il y en a trois au Québec. Il y en a à Montréal, Laval et également à Québec, pour prendre une espèce de photo numérique 3D par un employé qui n'est pas un dentiste. Là, on prend les photos des dents. Et selon la compagnie, on envoie ça à des dentistes qui sont dûment qualifiés pour examiner justement les photos qu'on envoie. Et là, on retourne une espèce de kit qu'on place. Ils appellent ça des gouttières pour les dents. C'est pas des broches en tant que telles comme on est habitué de voir, là, tu sais, des broches sur les dents. C'est vraiment une espèce de gouttière dans lesquelles les dents entrent et qui vont replacer l'alignement des dents au fil du temps. Alors, ça peut sembler alléchant parce que les coûts sont pas mal moins élevés. Là, on parle de quelque chose qui peut coûter autour ça peut aller jusqu'à 2 500, 3 000 $ plutôt que les 10 000 que vont facturer les orthodontistes. Alors, ça peut paraître alléchant, sauf que là, ben, les orthodontistes disent, attendez un petit peu, là, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Certains crient à l'usurpation de pouvoir, disent que c'est un travail qui devrait être fait par des dentistes patentés et non pas être fait en ligne de cette façon. D'autres disent, ben, écoutez, il fallait s'y attendre avec justement les services en ligne, tout ça. Et là, ben, faut vivre avec son temps. En tout cas, c'est une question qui est quand même assez délicate. Et le collège, pas le collège, mais l'ordre des orthodontistes va se pencher là-dessus parce que ça pourrait être catastrophique, disent certains médecins dentistes, parce que c'est un métier. Donc, il faut faire attention également. Il y a des règles à respecter et elles ne le sont pas tout le temps à respecter, ces règles-là. Bon, à part ça, il y a plein d'autres choses. À tous les jours, on a notre lot de nouvelles de gens qui se font attaquer par des chiens. Et dans La Voix de l'Est, ce matin, on parle d'une dame de Granby qui s'est fait attaquer, une histoire d'horreur. Lundi soir, la dame et son chien ont été gravement blessés. Il y a un husky qui les a assaillis. Elle marchait avec son petit caniche qui lutte pour sa vie en ce moment, alors que sa maîtresse, elle, a été amputée d'un bout de doigt. L'animal fautif a été pris en charge par la SPA des cantons qui est en train de l'évaluer. Alors, des histoires comme celle-là, il y en a plein. Denis Couture, d'ailleurs, tout à l'heure, va venir nous faire une espèce de quoi faire si jamais vous êtes attaqué par un chien. Quel genre de chien peut vous attaquer, dans quelles circonstances, pour essayer justement de vous préparer à une éventuelle attaque. Et à part ça, ben, je vous ai parlé la semaine dernière de cette audition 3X qui va se dérouler dans le stationnement d'un bar de Québec. C'est une compagnie qui s'appelle AD4X, qui va installer un motorisé dans le stationnement du Saint-Joseph. C'est un bar de la ville de Québec. Et là, ben, il y a des gens qui vont entrer dans le motorisé, puis ben, ils vont littéralement faire ce qu'ils ont à faire, là. Alors, puis ils seront filmés, bien sûr. Alors, et là, ben, il y a des gens qui se sont plaints dans le secteur parce qu'on dit le bar Saint-Joseph dans le Bourgneuf, ben, il n'est pas zoné pour des spectacles érotiques. Et à Québec, il y a des endroits où on peut présenter des spectacles érotiques. C'est pas partout. Il y a 4 zones où on peut le faire. Et là, il y a une plainte qui a été logée auprès de la Ville de Québec pour essayer de faire en sorte de bloquer, n'est-ce pas, ce projet un peu bizarre que de faire des auditions de ce genre-là dans un stationnement. Et je vais terminer avec ça parce que ça soulève toujours une question délicate. Vous savez, quand on est professionnel, soit de la santé ou qu'on est psychologue, psychiatre ou des trucs du genre, évidemment, il y a le droit des clients à leur anonymat, bien sûr. La vie privée, il y a des codes de déontologie à respecter, le secret professionnel à respecter, tout ça. Et là, ben, le protecteur du citoyen a sévèrement critiqué un organisme de santé mentale et une de ses employées pour ses interventions auprès d'Alexandre Bissonnette. Ça, c'est le tueur de la mosquée de Québec. Et ça s'est passé au centre de détention de Québec. En fait, quand il était emprisonné au centre de détention de Québec durant son procès, parce que là, il est dans un pénitencier, Alexandre Bissonnette s'est confié à une intervenante en santé mentale. La femme s'appelle Guylaine Caillouette. C'est une employée depuis plus de 20 ans d'un programme qu'on appelle le Programme d'encadrement clinique d'hébergement, le PECH. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se rendent rencontrer des gens qui sont détenus pour donner un soutien psychologique, les faire parler, etc., pour qu'ils puissent évacuer ce qu'ils ont sur la conscience. Alors, Mme Caillouette, après la tuerie, a rencontré Alexandre Bissonnette sur une base régulière alors qu'il était détenu à l'infirmerie, qu'il était médicamenté et dans une cellule capitonnée du centre de détention de Québec. On comprend que Bissonnette avait des problèmes dans la boîte à poux, là, je pense qu'il y en a encore d'ailleurs. Mais en tout cas, le mandat de Mme Caillouette était d'accompagner les détenus pour les faire parler. Et c'est là que Bissonnette lui aurait confié certaines choses. Il aurait dit, entre autres, qu'il était tanné de jouer un rôle et qu'il regrettait de ne pas avoir tué plus de personnes. Il ajoutait que les familles des victimes avaient le droit de savoir ça. Alors évidemment, quand Mme Caillouette a eu ces informations-là puis ces déclarations de Bissonnette, elle a fait un rapport, puis ça s'est rendu jusque devant le tribunal, parce que quand on a imposé la peine à Bissonnette, Mme Caillouette a été entendue comme témoin. Alors là, la famille d'Alexandre Bissonnette a reproché à cette dame-là d'avoir brisé le secret professionnel, parce que, évidemment, dans le préambule qu'on présente aux détenus, on lui dit, bien, tes propos, tout ce que tu vas dire, ça va rester secret, ça va rester entre nous deux. Alors, elle, au contraire, Mme Caillouette a dit que Bissonnette était conscient de ce qu'il disait, puis il lui avait donné la permission de briser ce secret professionnel, mais il reste qu'il y a eu des recommandations faites par le protecteur du citoyen d'avoir davantage de prudence, justement, dans le dévoilement de ces renseignements. Mais il reste que, tu fais quoi, là? Tu rencontres des détenus qui t'admettent des crimes très graves. Est-ce que tu gardes l'information pour toi ou tu vas la dévoiler? Je sais qu'il y a quand même un encadrement du secret professionnel, mais il reste que ça a soulevé certaines interrogations auprès du protecteur du citoyen. Il est 6h15.